La réponse ne laisse pas d'étonner aujourd'hui encore. Ouvrant le psautier sur l'autel, il lut ce verset. Tout le jour, la confusion a couvert mon visage. Ce thème lui fournit un sermon d'une audace inouïe. Qu'étaient tous ces prêts-là, sinon le visage de l'Église? Visage souillé par leur orgueil, leur amour du luxe et le mauvais exemple qu'ils donnaient au monde chrétien. Alors que ce visage devait resplendir de beauté comme le visage même du Christ. Ces paroles en langue populaire lui sortaient de la bouche comme un torrent. Et loin d'exciter les auditeurs à la colère, les plongèrent dans la stupeur. Un regard glissé sur leurs riches ornements, puis un autre plus rapide jusque dans leur conscience, ils se turent devant cet homme en habit couleur de terre qui leur disait avec la vigueur et la simplicité d'un prophète que Dieu n'était pas content de son Église. Et des larmes coulèrent. La joie. Cette joie que François répandait dans le cœur de milliers d'hommes, comment s'obtenait-elle? Suffisait-il de faire comme lui? On courait lui demander la paix et la libération des sens. N'était-ce donc qu'affaire de volonté? Le mystère se trouvait ailleurs. De tous les miracles accomplis par saint François, le plus étonnant restera la grande aventure franciscaine qui faillit changer le monde à tout jamais. On voit bien pourquoi elle devait tourner court. Plus difficile à comprendre est la chance qui lui fut donnée de réussir complètement selon les idées de son animateur. Qu'on se représente la jeunesse sacrifiant sa jeunesse et se jetant dans la pénitence comme dans une fête, prise de folie aux yeux du monde, elle abandonne tout d'un coup, le plaisir des sens et toutes les promesses de bonheur que lui offre le siècle. Pourquoi? Parce qu'en 1204, un jeune exalté a lu trois versets de l'Évangile et conquis l'amour sans limite. En imitant cet imitateur du Christ, on compte bien arriver à un résultat semblable. Le pari est énorme. Et si l'on n'obtenait rien en échange de cet abandon total? Cette éventualité ne mérite pas qu'on s'y arrête. On est appelé à Dieu par la voix du Poverello. François ne peut pas se tromper. François est comme le Christ. L'erreur serait de le prendre pour le Christ. Là est le piège. Mais Dieu est fidèle. Avec un élan que l'Église n'a pas connu depuis les premiers siècles, la première génération franciscaine reçut le royaume de Dieu comme un enfant. Suivent les adultes avec une ferveur égale. Pour eux, l'épreuve est peut-être plus sévère. Les jeunes n'ont ni carrière, ni fortune, ni magnifique demeure à sacrifier. Leur générosité est aveugle. Celle des hommes demande réflexion. Dans la plupart des cas, celle-ci se voit écartée comme seraient écartées les objections dans la vie d'un jeune homme victime d'un coup de foudre. Et puis, l'Italie est une grande amoureuse. Des hommes venaient, vivaient avec les frères comme des frères, repartaient parfois après des semaines ou des années, tant qu'il n'y eut pas d'ordre institué, mais leur vie était changée à tout jamais. Saint François et les femmes. N'empêche qu'il reste des questions à régler. Au premier chef, l'éternel problème de la chair. On a souvent parlé de la douceur de François. Aujourd'hui encore, elle figure en bonne place dans les portraits qu'on fait de lui. D'un regard, d'un sourire, il faisait accepter les exigences les plus difficiles de la vie en commun. Sa règle, assurément, gardait l'austérité des pages de l'Évangile d'où elle était issue. Là était pour beaucoup la force de son attrait. C'est la sévérité que demande la jeunesse à la religion, de même que les adultes qui ne renoncent pas aux facilités du monde pour les retrouver sous la bure. Pour mieux voir comment tout cela s'arrange, il n'y a qu'à se rendre en Ombrie, par exemple, et regarder le visage des jeunes frères que l'on croise dans les couvents. Ce qui frappe, c'est une gaieté charmante. Chez les plus âgés, une sérénité toujours prête à sourire. François, le frère par excellence, ne les a pas quittés. Il détestait la richesse. Il a légué sa joie à ses innombrables enfants.